Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale, dorénavant diffusé le mardi et le mercredi en lieu et place des vendredis et samedis, diffusion à 19h le mardi et rediffusion à midi le mercredi. Une nouvelle place dans la grille de radioprésence qui va nous permettre d'annoncer plus facilement les événements musicaux de la fin de la semaine. Et des événements, il y en a eu de nombreux ces derniers temps et il va y en avoir encore beaucoup dans les jours à venir. Si la période des festivals d'automne est terminée, toutes les saisons de concerts, de récitals et d'opéras sont désormais lancées et bien lancées. Voilà de quoi alimenter abondamment le programme de cette émission où je vais recevoir encore une fois le soutien précieux du fidèle Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Tous les deux, nous sommes très heureux d'accueillir l'invité d'honneur de ce numéro, le corniste et trompettiste Guillaume Leblanc, cofondateur et co-directeur du Toulouse Wind Orchestra, qui donne ses deux concerts annuels à Saint-Pierre-des-Cuisines les 27 et 28 octobre à 20h30, avec un programme intitulé Sacre 2021. Nous allons vous expliquer ce qui se cache derrière ce titre tout à l'heure en seconde partie d'émission avec Guillaume Leblanc. Pour l'instant, place à l'actualité musicale de la semaine passée. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et je salue et souhaite aussi la bienvenue à Guillaume Leblanc et Serge Chosy. Nous allons commencer avec vous, Serge, en revenant d'abord sur Toulouse des Orgues, le dernier des festivals de l'automne. Le concert de clôture a eu lieu dimanche, mais il y en a eu beaucoup d'autres auparavant durant cette 26e édition, avec encore une fois des propositions très diverses qui ont souvent attiré, pour la plupart d'entre elles, un public nombreux et ravi. Vous avez eu la chance d'assister à deux de ces concerts, Serge, et vous teniez à partager vos impressions avec nos auditeurs. Nous allons revenir d'abord sur le concert Bach Métamorphosis qui réunissait un duo pour le moins improbable, celui formé par l'organiste Yves Rechsteiner, le directeur artistique du festival, et la contorsionniste Lise Poton. C'était à la cathédrale Saint-Étienne le 12 octobre. Racontez-nous un peu ça, c'était vraiment inattendu cette association.
Ah, totalement inattendu. On assiste souvent à des concerts orgue et trompette, orgue et mandoline, orgue et n'importe quoi, mais orgue et contorsionniste, pour ma part, c'est la première fois. Et donc, il s'agissait donc de mettre en parallèle, de faire des espèces de correspondance à la Baudelaire, un peu, entre la musique de Bach, jouée à l'orgue, mais il ne s'agissait que de transcription, je vais y revenir, et puis une alors contorsionniste, bah, elle est à la fois chorégraphe, danseuse, et bon, c'est tout à fait inhabituel et tout à fait impressionnant, hein. Alors il faut dire que ce spectacle, puisqu'il s'agit d'un spectacle, se déroulait dans la nef gothique de la cathédrale, avec donc les stalles en bois, les magnifiques stalles occupées, et le public était autour d'une estrade. Une estrade avec un cercle de lumière autour de l'estrade, très bien fait. Et donc, la contorsionniste qui arrive après une introduction à l'orgue, le magnifique orgue, donc de l'orgue en nid d'hirondelle de la cathédrale Saint-Étienne. Et Yves Rechsteiner a joué pendant toute la soirée uniquement des transcriptions d'œuvres pour violon qu'il a effectué lui-même, qu'il a transposé à l'orgue, de manière très intelligente et très belle, hein. Avec, alors il faut enrichir l'œuvre originale. Le violon est quand même un instrument monodique et l'orgue, c'est peut-être l'instrument le plus polyphonique qui soit. Donc, il a fait de très belles choses, en commençant par la partita numéro 3, la BWV 1006. Donc, et ensuite, des improvisations. Il intercalait entre les transcriptions de Bach, des improvisations impressionnantes, notamment une qui était une espèce de nappe sonore pour l'arrivée de la contorsionniste, puis ensuite donc de nouveau une série de sonates, alors pour violon seul, très 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 belle et très bien transposée, puis de nouveau une improvisation, enfin la partita numéro 2, la fameuse partita numéro 2, dont il n'a pas joué la chaconne. Il ne l'a joué qu'à la fin du concert. Et il a, avant cette chaconne, qui on le sait est d'une richesse incroyable, il a fait une improvisation totalement cataclysmique. Et donc, et c'était en parfait accord avec les mouvements, alors d'une souplesse. Lise Poton, évidemment, c'est sa profession, mais c'est impressionnant hein, de voir la souplesse avec laquelle elle contorsionne donc son corps. Et alors, ce n'était pas redondant sur la musique, ça ne faisait pas illustration au premier degré, mais c'était vraiment très intéressant.
Et c'était en rythme un peu quand même, comment ça fonctionnait ?
Oui, il y avait un petit peu, mais pas vraiment. Hein. Donc, c'est autre chose. C'est plutôt une impression qu'elle superpose à la musique. Donc, vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc, avec donc cette partita, cette chaconne de la partita numéro 2 pour conclure le concert, le spectacle, plutôt que le concert d'ailleurs.
Oui, parce que c'était vraiment un spectacle. Alors, pour ma part, je n'y ai pas assisté, mais j'ai assisté au concert d'un autre duo assez improbable aussi sur le papier, celui qu'Yves Rechsteiner avait formé au Théâtre des Mazades vendredi 15 octobre entre l'organiste et compositeur Thierry Esquèche et l'accordéoniste Lionel Suarez. Lionel Suarez, originaire de l'Aveyron, pas très loin de Rodez. Thierry Esquèche qui a rappelé, avant que le concert ne commence, que l'accordéon avait été son premier instrument, peu de gens le savent. Ce concert était dédié à Astor Piazzolla, il était intitulé Passion Piazzolla. On fête cette année le 100e anniversaire de la naissance du compositeur argentin et nous avons pu y retrouver le fameux orgue Gulliver d'Henri-Franck Beauperrin, déjà vu la semaine dernière sur la scène de l'Allograin. Oui. Cet instrument démontable et transportable qui crée à lui seul un véritable décor, c'est vraiment aussi impressionnant qu'étonnant, Serge.
Absolument, absolument. À la Allograin, il occupait tout le fond du plateau, et très coloré, avec des projections de couleurs dessus. C'est vraiment très, très, très impressionnant et intéressant, parce que c'est un orgue à tuyaux, hein. Pas un orgue électronique.
Ah oui, c'est un vrai orgue à tuyaux, et nous avons eu droit à un concert avec deux musiciens qui n'avaient jamais joué ensemble, mais deux improvisateurs qui se sont très bien trouvés, doués tous les deux d'une oreille extraordinaire, ce qui leur permettait, lorsqu'il y avait de petits décalages, de vite raccrocher les wagons, si je peux m'exprimer ainsi. Beaucoup d'improvisation donc autour de pièces très connues ou moins connues de Piazzolla. On a pu entendre de grands classiques comme Liber Tango, Adios Nonino ou bien sûr Oblivion, qu'on attendait tous et qu'ils avaient gardé pour le vice, les petits malins, un beau concert entre deux musiciens de race. J'aime bien les appeler comme ça, ce sont deux musiciens de race devant une salle quasi pleine, sachant que le Théâtre des Mazades peut tout de même accueillir 550 personnes, une salle très enthousiaste. Ils ont été rappelés plusieurs fois. Je vous propose d'écouter un extrait de ce concert que l'on peut réécouter sur YouTube parce qu'il était diffusé en direct ce soir-là. Je vous propose d'écouter la version du célèbre Liber Tango d'Astor Piazzolla dans l'interprétation qu'en ont donné Thierry Esquèche et Lionel Suarez. Thank you. Le fameux Libertango d'Astor Piazzolla, interprété par Thierry Esquèche et Lionel Suarez, c'était vendredi dernier au Théâtre des Mazades. Nous allons conclure notre retour sur le récent festival Toulouse des Orgues avec le concert donné le lendemain, samedi 16 octobre, à l'église de la Dalbat par la maîtrise de Toulouse, sous la direction de Marc Hopstadt et accompagné à l'orgue par William Fielding. Ce concert était intitulé « La voix des anges ». Et vous y étiez, Serge ? Vous avez vraiment entendu ce jour-là une musique à faire pleurer les anges.
Ah, tout à fait. C'est incroyable. D'abord, je voudrais souligner une fois de plus la qualité de cette maîtrise qui a été créée quand même en 2006, maîtrise du conservatoire, donc, et qui est dirigée depuis l'origine par Marc Hopstadt, qui est expert en la matière. Il est britannique. On sait que le Royaume-Uni est vraiment le royaume des chorales. Hein. Et là, c'était magnifique, absolument magnifique. Ils ont joué, chanté deux œuvres. La première, a cappella, c'était une messe pour double chœur de Franck Martin. Une messe étrange, puisqu'elle a été composée en 1922, et puis Franck Martin ne l'a pas ni publié ni fait exécuter. Il l'a gardé avec lui, il a dit c'est entre Dieu et moi, et donc il ne l'a pas diffusé. Et c'est 50 ans plus tard qu'elle a enfin été diffusée et publiée, et donc c'est cette messe qu'ils ont chantée, une messe vraiment dans un langage, alors très étrange, qui rappelle à la fois le grégorien et qui est pourtant d'une complexité incroyable. Et ils ont fait ça avec un art, avec une cohésion, une justesse qui est confondante, vraiment. Et ensuite, ils ont chanté, là, accompagné à l'orgue, le Requiem de Gabriel Fauré, notre Gabriel Fauré de Pamiers, de chez nous, en quelque sorte. Et donc, alors, il y a plusieurs versions de ce Requiem. Ça, c'était la version avec orgue, qui est venue plus tard. C'est la dernière des transpositions, d'ailleurs. Et qui était chantée donc par l'ensemble des membres de la maîtrise. Alors, dans les membres de la maîtrise, il y a des enfants et puis il y a des adultes. Hein. Il y a les deux, donc. Et là, là aussi, vraiment, c'était... Alors, bon, on a l'habitude de qualifier ce requiem de berceuse de la mort. Hein.
C'est ainsi que Fauré lui-même le qualifiait.
C'est lui-même, oui. Et donc, vraiment, on reste quoi devant la perfection avec laquelle cette chorale, ce chœur magnifique, a chanté ça. Alors, il y a l'intervention de deux solistes, un baryton qui intervient à plusieurs reprises, notamment dans le Hostias, excellent baryton, dont je n'ai pas le nom, dont on n'a pas donné le nom, mais vraiment excellent. Et alors, surtout, bon, on peut dire que l'apothéose de ce requiem, c'est le Pie Jésus. Pie Jésus, puisqu'il n'y a pas de Désiré dans ce requiem, il a voulu un requiem pacifique, un requiem apaisé et doux. Et dans ce Pie Jésus est intervenu un jeune garçon qui devait avoir 10 ans. Enfin, c'est incroyable. Et il a chanté ça avec une candeur, une beauté, une pureté, une justesse totalement incroyable, au point que j'ai dit, ben, parmi la voix des anges, ça c'est la voix de l'archange, absolument. C'était génial, extraordinaire. Vraiment un des concerts les plus émouvants de ces derniers mois, je dois dire.
Les anges ont pleuré, le public aussi apparemment.
Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ah ben non, la gorge serrée quand on entend ce Pie Jésus.
Bah, déjà, le requiem de Fauré lui-même est une merveille. Le Pie Jésus est une merveille parmi la merveille. Et quand là... il est chanté, comme alors, vous avez l'air de,
oui,
de le dire,
oui,
évidemment...
Oui. Alors, c'est souvent chanté par une femme. Hein.
Oui, plutôt. Oui.
Très souvent. En fait, il l'a composé pour un enfant, hein, pour une voix d'enfant. Et là, on avait retrouvé l'original. Hein. Et l'original à un niveau top niveau.
La voix des anges, voilà donc pour ce retour sur cette belle édition 2021 de Toulouse des Orgues. Nous allons poursuivre avec un concert où la voix était elle aussi très à l'honneur, entièrement a cappella cette fois-ci, puisqu'il s'agit du concert donné par les King Singers, jeudi 14 octobre à Saint-Pierre-des-Cuisines, proposé par la saison des grands interprètes. Ce n'est pas la première fois que les King Singers se produisent dans ce cadre, mais leur venue à Toulouse est toujours un événement. Et là encore, Serge, ça a été un grand moment de musique vocale.
Mais oui, décidément, tout allait bien là pour les voix. Et effectivement, les six chanteurs des King Singers, qui sont originaires d'Oxford, Cambridge, des
grandes... En mai 68, hein, les oui. King Singers, et c'était au King's College, d'où le nom de Cambridge, à Cambridge.
Mais enfin, ce n'étaient pas les créateurs de l'ensemble qui chantaient.
Ils ont un peu vieilli depuis.
Oui, exactement. Là, c'était uniquement de jeunes chanteurs et qui sont venus pour un programme qu'ils ont appelé Finding Harmony, c'est-à-dire... trouver l'harmonie. Hein.
Vaste sujet.
N'est-ce pas? Et l'idée du programme était en soi tout à fait particulière, puisqu'ils ont voulu chanter des musiques qui accompagnent des luttes dans le monde. Alors ça commençait par « I have a dream », vous voyez à quelle lutte...
Ça doit être Martin Luther King.
C'est exactement Martin Luther King. Et ils ont chanté une mélodie de Maya Jackson, arrangée par un certain Stacy Gibbs. Et ensuite, et puis ça continuait. Alors ils ont abordé la « Singing Revolution », comme ils l'ont appelé, en Estonie, quand l'Estonie s'est séparée enfin de l'URSS. Puis ils sont allés en Asie avec la Géorgie, donc la République de Géorgie, donc chanter une pièce où même certains chanteurs font du yodel, ce qui est assez inhabituel pour des Britanniques.
La Géorgie, on est encore en Europe, on n'est pas en Asie tout de même.
Oui, on n'y est pas loin quand même.
Oui,
hein,
enfin, c'est cocasse, quoi.
Oui. Et donc, ensuite, en Écosse, avec la lutte de l'Écosse contre le Royaume-Uni, évidemment, avec des pièces de grande nostalgie, avec notamment une pièce chantée dans un galimatien incompréhensible, c'est fait exprès, évidemment, et où les chanteurs imitent les instruments. Mais à un point, c'est confondant, hein, c'est incroyable. Et puis ensuite encore, on est revenu à la réforme, en Allemagne, de passer du catholicisme au protestantisme, avec un cantique de Martin Luther, mais pas King, celui-là, mis en musique par Johann Sebastian Bach, donc « Ein Festburg ist unser Gott », et puis ensuite des pièces de Bird, de Thalys, bon, d'une grande pureté, d'une grande beauté. Et puis on est allé jusqu'en Afrique du Sud, et on a terminé par une berceuse yiddish, pour évoquer l'Holocauste, en quelque sorte. Donc, vous voyez, c'est incroyable. Mais ces six garçons, alors je qualifie de six garçons dans le vent,
oui.
Vous voyez
oui, je vois
quelle allusion, alors tellement évidente qu'à la fin, ils ont chanté, pour terminer, deux chansons des Beatles, justement, avec Perry Lane et Blackbird, donc deux standards des Beatles. Et en plus, ils ont chanté... alors, une chose que on pourrait dire, ils ont joué avec la voix, une pièce de Duke Ellington dans laquelle ils imitent les instruments. Et là, on croyait avoir un jazz band.
C'était quelle
nous.
Pièce? Vous l'avez en tête, le titre de la pièce en question?
Non.
Ça n'a pas été précisé, peut-être.
Non, je ne crois pas que ça ait été précisé. Donc, vraiment, une chose tout à fait inhabituelle. Ce sont des chanteurs, des musiciens et des acteurs.
Oui, et oui.
Ah, ben ce sont des jeunes gens extraordinaires.
Ils ne sont que six, hein, donc là, chacun doit tenir sa partie.
Oui, il y a deux contre-ténors, un ténor, deux barytons, une basse. Avec en particulier la basse, qui est un garçon immense, avec un creux vocal tout à fait impressionnant.
C'est rare que les basses soient des petits maigrelets. Hein.
C'est vrai, c'est rare.
C'est assez rare quand même.
Oui.
On ne sait trop que choisir dans le foisonnant programme que les King Singers ont interprété jeudi dernier à Saint-Pierre-des-Cuisines. J'ai pioché dans la partie intitulée Lost Songs of the Islands, c'est la partie écossaise, et j'ai choisi Loch Lomond, célèbre chant traditionnel écossais qu'ils ont chanté dans une version arrangée par un certain David Overton.
Ever wont to gay on On the bonny, bonny banks of Loch Lomond.
Oh, ye'll take the high road, and I'll take the low road, and I'll be in Scotland afore ye. But me and my true we'll never meet again on the bonny, bonny banks o' Loch Lomond.
I mind when we parted in yon shady glen, on the steep, steep side of Ben Lomond,
when in purple hue the highland hills we view, and the moon looks out from the Scotland afore ye. But me and my true love will never meet again.
Loch Lomond, chant traditionnel écossais interprété par les King Singers dans une version arrangée par David Overton. Notez que le prochain concert de la saison des grands interprètes a lieu dès lundi prochain, le 25 octobre à 20h, toujours à la Lograin, où nous allons retrouver la soprano Sabine Devielle et l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon dans un programme de cantates de Bach et des airs d'opéra de Handel. Et enfin, un dernier concert que nous voulions évoquer dans cette première partie d'émission, celui de l'Orchestre National du Capitole vendredi, encore à la Lograin. Il y avait un chef et un soliste invité, Serge, un violoniste qui porte un nom, ma foi, célèbre.
Un nom célèbre, il s'appelle Michael Barenboim. Alors évidemment, on pense tout de suite au grand Barenboim, connu, qui est déjà venu d'ailleurs pour la première fois l'année dernière, qui avait joué tout un concert.
Il y a deux ans, c'était au moins il y a deux ans, si c'est pas trois, aux grands interprètes.
Ah oui, mais avec les problèmes de la...
Oui, on est un peu décalé, c'est vrai.
De l'épidémie.
Donc Michael, le fils de Daniel, est présent.
Le fils de Daniel, qui participe à l'orchestre d'Ivan de son père, donc, et qui venait ici pour le concerto numéro 2 de Mendelssohn. Bon, alors ça, évidemment, une œuvre bien connue, l'emblème du concerto romantique, alors qui a été joué alors de manière un peu inhabituelle, avec plus d'énergie que d'habitude, plus d'énergie que d'émotion, je dirais, mais très bien joué, évidemment. Mais je voudrais quand même signaler que l'orchestre a d'abord jouer une œuvre de Qigang Chen, compositeur chinois connu à Toulouse, puisque c'est la troisième œuvre de lui qui est jouée. On avait d'abord joué un concerto pour violoncelle et puis un concerto pour violon. Et là, c'est donc une espèce de pièce en cinq mouvements, puisqu'il veut représenter les cinq éléments que considère le compositeur: l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Et donc, ce sont des pièces qui font à peine 2 minutes chacune. Donc, vous voyez, ça fait une œuvre de moins de 10 minutes. Très fluide, très belle, très colorée, avec des sonorités étranges, mais très belles. Hein. C'est vraiment un grand talent de compositeur. Il faut souvenir son nom, Qigang Chen.
Donc, qui fut le dernier élève d'Olivier Messiaen.
Voilà, le tout dernier élève que Olivier Messiaen a accepté de prendre, bien qu'il avait décidé d'arrêter. Donc il a poursuivi son travail de pédagogue pour lui.
Il vit en France depuis longtemps. Hein,
oui, 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 exactement. Et puis dernière œuvre au programme, alors là, un grand classique pour l'Orchestre National du Capitole, c'est la version de Maurice Ravel des tableaux d'une exposition de Moussorgski. Évidemment, les musiciens sont très à l'aise. C'était dirigé avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie par le chef, donc Leo Kwakman, dont on n'a pas dit qu'il était de Macao, donc chef qui est également venu ici plusieurs fois. Et alors, je voudrais quand même préciser quelque chose et rendre hommage à l'un des solistes le plus important, qui est le soliste qui joue de la trompette. Eh bien, le titulaire a eu un problème, il n'a pas pu remplir son rôle. Et donc, c'est le premier trompette de l'orchestre Bordeaux qui est venu. Il s'appelle Laurent Dupéré et qui a joué à la fois les promenades, les fameuses thèmes de promenade des tableaux d'une exposition, et le terrible tableau du juif pauvre et du juif riche, donc qu'il a joué avec un talent formidable. Il a eu d'ailleurs une acclamation à la fin
de tout l'orchestre.
Ah, de tout l'orchestre et du public.
Et du public, évidemment.
C'était magnifique. Alors, bravo à tous les solistes, que ce soit le saxo, il a un rôle important dans cette œuvre, le hautbois, le basson, le cor, le tuba. Bon, vraiment, mais l'orchestre est très, très entraîné à jouer cette œuvre qui est à son répertoire depuis des décennies, on peut dire.
Eh bien, vous nous donnez l'eau à la bouche et il est trop tentant d'entendre encore une fois La Grande Porte de Kiev, le dernier des tableaux d'une exposition composée par Moussorgski dans la version orchestrée par Maurice Ravel. Et nous allons bien sûr l'écouter interprété par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tougan Sokiev. Grande Porte de Kiev, dernier des tableaux d'une exposition composée par Modeste Moussorgski dans la version orchestrée merveilleusement par Maurice Ravel, interprétée ici par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tougan Sokiev. Fin de cette première partie d'émission, petite pause avant de nous retrouver dans quelques secondes avec Serge Chosy et Guillaume Leblanc bien sûr. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda est la seconde partie de Mélomanie avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec notre invité d'honneur, le corniste et trompettiste Guillaume Leblanc, cofondateur et co-directeur du Toulouse Wind Orchestra, une semaine avant les deux concerts annuels que donne le TWO à Saint-Pierre-des-Cuisines, les 27 et 28 octobre à 20h30, avec un programme intitulé Sacre 2021. Nous allons vous en dire plus sur ce programme dans quelques minutes. Petit rappel auparavant, pour ceux qui ne connaissent pas encore le TWO, ensemble que vous avez fondé Guillaume Leblanc en 2015 avec quelques autres camarades. Quel est son effectif? D'où viennent les musiciens qui le composent? Et comment fonctionne-t-il? Parce que ce n'est pas un orchestre permanent, c'est plus un collectif qui se réunit à certains moments de l'année en fait.
Alors oui, c'est... Bonjour déjà. C'est un orchestre d'harmonie, donc un orchestre à vent, donc principalement composé d'instruments à vent, qui a été créé en 2015 avec, par moi et par Jean-Li Eftekari. Et le principe de cet orchestre, c'était de ramener un petit peu plein de musiciens qui sont passés par le Conservatoire de Toulouse et qui sont maintenant soit grands élèves, soit professionnels dans les autres orchestres à Toulouse, dans la région, ou alors beaucoup plus loin, à Paris, en Allemagne, jusqu'à New York. Et donc de les réunir le temps d'une session en octobre en général, puisque c'est des vacances qui sont communes à toute la France et qui sont pour les professeurs qui sont arrangeantes, et donc de façon bénévole de venir juste pour 3, 4, 5 jours passer un petit peu de temps tous ensemble et faire partager de la musique.
Alors vous êtes 80 à peu près, oui. Parfois plus.
Cette année on sera 85, oui, j'ai fait un petit
peu. Alors voilà, vous imaginez un peu l'effectif. Si je dis que c'est un orchestre de copains et de copines, c'est un peu ça quand
oui,
même.
Oui, exactement.
Là-bas, c'est l'amitié qui vous réunit, l'amour de la musique, mais l'amitié aussi.
Au départ, c'est l'amitié qui nous a réunis. Oui, effectivement, on avait un noyau d'une quarantaine de musiciens où on pouvait dire qu'on était vraiment amis. Puis ensuite, ça a un peu dérivé vers quelque chose de plus éducatif, donc permettre à certains élèves, grands élèves, de rentrer, de pouvoir jouer justement à côté de grands professionnels et d'apprendre le métier d'orchestre aussi à côté de grands musiciens.
Alors vous avez vécu un grand moment il y a quelques années, en 2017, aux Pays-Bas. Il faut que vous nous racontiez ça parce que vous avez été classé 3e mondial au World Music Contest de Kerkrade. Qu'est-ce que c'est ça, Kerkrade?
Le World Music Contest de Kerkrade, c'est un championnat du monde qui a lieu tous les 4 ans sur le modèle d'une Coupe du Monde et qui réunit des harmonies, des fanfares. C'est à peu près comme une harmonie, mais avec des saxophones. Enfin, c'est vraiment typique, ça. C'est vraiment très néerlandais. Et quelque chose dans les stades avec des grosses, des shows américains, avec des grands déplacements. Et donc, ça a lieu tous les 4 ans. Et on s'est présenté dans la catégorie Concert Division, qui était la plus haute catégorie. Et on a été classé 3e là-bas.
C'est une magnifique récompense, je trouve.
Bravo, bravo.
Vous en pensez, Serge? Ils sont forts, tous les deux, quand même.
Parce que ils le méritent.
Oh, ben, ils le méritent, oui. Ces grands orchestres d'harmonie, c'est assez anglo-saxon à la base, non?
Ah oui, c'est anglo-saxon. Nous, on voit que... Donc, on a beaucoup de vidéos sur Internet et on voit que c'est très, très regardé. C'est États-Unis et c'est aussi très japonais, taïwanais, coréen.
Ah oui.
Ouais, ils sont très, très friands de cette musique-là. D'ailleurs, le Tokyo Kozai Orchestra est un des seuls orchestres professionnels d'harmonie qui n'est pas militaire et qui est donc à Tokyo.
Donc une quinzaine de concerts tout de même, hein, depuis la création de l'orchestre de l'ensemble en 2015, et avec des œuvres, un répertoire où on trouve des compositions vraiment originellement écrites pour ce type de formation et des transcriptions aussi.
Exactement. Au départ, on n'avait pas pensé vraiment à un répertoire spécifique. On voulait vraiment se réunir et faire un orchestre d'harmonie avec Big Apple, qu'on avait joué, qui était une symphonie qu'on avait joué à l'époque, dans les années 2000, avec les élèves du conservatoire. Et ensuite, on s'est rendu compte que notre orchestre était un des seuls qui pouvait attaquer un répertoire pour orchestre d'harmonie vraiment, véritablement, dans son orchestration, j'ai envie de dire, originale, avec beaucoup d'instruments, avec 3 bassons, 3 ou 4 hautbois, 4 bassons, des orchestrations que peu d'orchestres d'harmonie de village. Moi, j'ai commencé à l'harmonie de Muret, par exemple. Et bien, si on avait un hautbois ou un basson, c'était assez incroyable. C'est vraiment rarement le cas.
Oui. Alors, les compositeurs aussi, pour ce type de formation, c'est très anglo-saxon aussi ou c'est beaucoup plus général que ça? On en trouve un peu partout?
Ça c'est un peu généralisé, ouais. Vraiment, on trouve des très bons compositeurs en Espagne, en Italie, en Angleterre, aux Pays-Bas, aux États-Unis, beaucoup de compositeurs pour musique d'harmonie, spécifiquement pour ça, ouais.
Vous êtes beaucoup en France de ce type de formation avec des effectifs aussi importants?
Non, il y a la Philharmonie de Nantes, l'orchestre de la région Centre, qui est un très gros orchestre d'harmonie, des orchestres militaires évidemment, comme la Garde républicaine, ou la Gendarmerie mobile, ou etc. L'orchestre de l'électricité de Strasbourg, je pense, pour citer les plus gros.
Voilà, donc il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Donc on a la chance d'en avoir un à Toulouse. Eh bien, nous allons l'écouter une première fois, ce Toulouse Wind Orchestra, dans cette émission, pour que nos auditeurs puissent se faire une idée des programmes que vous proposez. Ici, il s'agit d'une version de L'Apprenti Sorcier de Paul Dukas que vous aviez donnée lors de vos concerts de 2017. L'apprenti sorcier de Paul Dukas, une version du Toulouse Wind Orchestra enregistrée lors d'un de vos concerts de 2017 à Saint-Pierre-des-Cuisines sous la direction de Dylan Corley. C'est d'ailleurs une des œuvres que l'on trouve sur votre dernier CD paru, un CD des best-of du Toulouse Wind Orchestra que l'on peut se procurer sur le site internet de l'orchestre, Guillaume Leblanc.
Exactement, un double CD qui regroupe un petit peu 5 ans de Toulouse Wind Orchestra avec un petit peu tout dessus, West Side Story, la danse de Marquès, un petit peu des grosses pièces phares qu'on a jouées pendant ces 5 dernières années.
Y compris les tableaux d'une exposition de Moussorski qu'on vient d'écouter.
Y compris les tableaux.
Voilà, il y a les tableaux, il y a un concerto pour hautbois de Gabriel Philippot qui est très beau
la
aussi.
La première création qu'on ait fait pour Orchestre d'Harmonie, oui.
Voilà, tout ça, ce CD, vous pouvez vous le procurer sur le site internet de l'ensemble Toulouse Wind Orchestra. Alors parlons maintenant du programme des concerts de la semaine prochaine, les 27 et 28 octobre à 20h30, donc toujours dans votre salle fétiche de Saint-Pierre-des-Cuisines, un programme que vous avez intitulé Sacre 2021. Alors, quelles œuvres allez-vous jouer et pourquoi ce titre Sacre 2021 ? J'ai l'impression que vous avez innové cette année.
Alors oui, on a innové. Alors, on va revenir un an en arrière. Ce programme devait être le Sacre des 5 ans. Et on devait effectivement le jouer l'année dernière à Saint-Pierre-des-Cuisines, évidemment, avec ce qui s'est passé l'année dernière. On n'a pas pu le jouer, on a été coupé au milieu, on avait commencé la session, on avait fait notre général, et ça s'est arrêté. Et donc, on a décidé de ne pas refaire le même programme exactement, mais de changer et toujours de garder donc cette pièce phare que l'on voulait jouer, qui était donc le Sacre du printemps, avec cette année avec des danseurs. Voilà, on voulait un petit peu innover, un peu mélanger les arts. On est donc très amis avec Virginie Bayet-Dartigalang, une ancienne danseuse du ballet du Capitole, et on lui avait proposé de venir danser et elle avait accepté avec joie. Donc on a fait un programme autour de ça.
Alors elle danse dans une compagnie qui s'appelle
la compagnie Humanum.
Voilà, Humanum Dance Compagnie, c'est un collectif, hein, ouais. Un peu comme vous d'ailleurs, hein, qui a été créé à Toulouse il y a une dizaine d'années, avec des danseurs qui viennent d'un peu tous les horizons. Alors, ils vont danser donc sur une version du Sacre du Printemps qui est arrangé.
Exactement.
Aussi. Alors, qui a fait l'arrangement ?
Alors, c'est un arrangement de Bruno Peterschmidt, qui est un corniste qui habite en Suisse et qui, quand on a cherché à faire un arrangement de cette pièce, c'était assez dur à trouver puisqu'on voulait quelque chose qui nous ressemble et donc avec un grand orchestre, évidemment. On voulait 4 bassons, au moins 4 hautbois, il y en a 5 normalement, mais on voulait vraiment un gros effectif. Et donc on lui a demandé, il avait déjà fait la première partie pour un orchestre militaire portugais, et donc il a revu cette même première partie et arrangé la deuxième partie.
Et donc vous serez 85.
On sera 85 sur le sac, peut-être un petit peu moins, mais peut-être 80, mais en gros.
De toute façon, oui. Le sac, même la version entre guillemets d'origine, il faut aussi un très très gros effectif. Ouais, ça sert à choisir. Ouais, quand absolument. L'orchestre du Capitole le joue, ils sont plus de 100, je pense. Hein.
Oui, pas loin.
Pas loin, ouais. 90 au moins, je pense. Hein. Alors les danseurs, combien sont-ils?
Alors les danseurs sont au nombre de 4.
Et ils vont jouer comment? Ça va être spatialisé de quelle façon? Ils vont être devant l'orchestre? Vous allez reculer un peu sur la scène?
Exactement, on va faire une première partie, ensuite on va reculer et faire, laisser un bandon qui n'est jamais assez profond pour eux, puisqu'ils n'ont pas l'habitude de danser un petit peu à plat comme ça, mais ils ont 4 mètres sur 9. Hein,
la scène est vaste quand même, à Saint-Pierre-des-Cuisines. La scène est vaste. 3 femmes et un homme. Alors si j'ai bien compris, c'est... une chorégraphie, ce qu'ils essayent de faire passer, c'est une espèce d'ode à la nature, ou en tout cas à la préservation de l'environnement. C'est un peu un spectacle écologique.
C'est un peu écologique, mais je crois que quand on le voit, et je pense qu'à chaque fois qu'on voit ou on écoute le sac du printemps, on ne pense plus à ça. On a pu le faire l'année dernière, c'est avec un spectacle avec des lumières, etc. Donc du coup, l'orchestre est vraiment mis en retrait, puisque nous, on joue avec des lampes de pupitre, on n'a plus les lumières dessus, c'est vraiment quelque chose autour de la danse, et on oublie un petit peu tout ça, et on se laisse porter, et même les rares personnes qui ont pu assister à la répétition générale l'année dernière avaient été vraiment sublimées par ce spectacle et étaient sorties un peu estomaquées de cette chorégraphie qui est aussi faite spécialement pour nous.
Alors rappelons qu'il y a une partie du Sacre du Printemps qui a pour titre l'adoration de la Terre. Donc, on est en plein dedans. Alors, je lis la présentation qu'ils ont faite de leur spectacle. 3 femmes et un homme dans cette réalité fiction chorégraphique et musicale où l'on observe une société secrète qui tente de préserver les rites ancestraux aux confins de l'urbanité et où la Terre pourrait se rebeller face aux mauvais traitements qu'on lui inflige. Voilà, la couleur est annoncée.
Voilà qui est clair.
Je suis très curieux de voir ce que ça va donner sur scène sur la musique du sac. Alors, il y a 2 autres œuvres au programme de ce concert. La première, c'est une compositrice qu'il a écrite et qui est bien vivante.
Et oui, et ça faisait partie du choix, et c'est de jouer une femme dans ce milieu tellement masculin des instruments avant où on voit très peu de femmes trompettistes.
En tout cas, chez les cuivres, ça c'est sûr.
Chez les cuivres.
Chez les bois, c'est un peu moins vrai.
Un peu moins vrai, mais ça le reste quand même. Ça le reste quand même. Ça a tendance à changer, mais donc on était heureux, en tout cas chez les compositeurs, c'est sûr que c'est toujours très masculin, et donc on était très heureux de jouer cette pièce.
Alors, qui est cette compositrice et quel est le titre de sa pièce?
Donc, Ida Gotkovsky. Une compositrice française qui a étudié au CNSM de Paris avec Nadia Boulanger.
Et, encore une élève de Nadia Boulanger. On parlait de Piazzolla tout à l'heure, qu'il a été lui-même. Voilà, encore une.
Exactement. Et donc, qui s'appelle Le Poème du Feu.
Poème du Feu, compositrice et pianiste à la base française. Donc, Ida Gotkovsky, qui a 88 ans aujourd'hui, mais qui est encore bien vivante. Je ne sais pas si alors avant du fait qu'on va jouer une de ses œuvres à Toulouse. Et alors, l'autre œuvre que vous allez jouer, c'est aussi une pièce écrite par un compositeur contemporain américain, celui-ci, beaucoup plus jeune que Ida Gotkovsky. Ouais. Il a 48 ans,
il s'appelle John Mackey. John Mackey, c'est un des compositeurs très très en vogue aux États-Unis. Tout le monde le joue et aux États-Unis, ils ont quelque chose, c'est que chaque université possède son club de basket et son orchestre d'harmonie. Et donc pour cette pièce-là, c'est une co-commande d'une dizaine d'universités qui ont commandé cette pièce. Et c'est une pièce qui est comment dire très très imagée, très poétique. C'est Frozen Cathedral, ça s'appelle. Donc on avait choisi le feu. Là, ce sera plutôt la glace et c'est un univers. C'est imagé sur un petit peu les paysages de l'Alaska. Et on est dans quelque chose qui est avec beaucoup de percussions, de glockenspiel, on joue du waterphone, un instrument que personne ne connaît.
Donc waterphone, c'est-à-dire ouais, ça se présente comment?
C'est un instrument qui ressemble un peu à une calebasse avec dessus des lames qui sont frottées par un archer et qui font quelque chose. C'est aussi le whalephone, la baleine, qui fait un petit peu un cri de baleine.
Ah oui,
d'accord. Donc c'est un univers vraiment comme ça, très merveilleux. Et en plus, ces instruments-là sont joués un petit peu de façon spatialisée dans l'espace. Donc il demande à 3 percussionnistes de jouer, un au milieu et 2 sur les côtés du public. Donc on verra comment on va se disposer. On va commencer lundi à voir tout ça. Mais...
c'est alléchant tout ça.
Oui, Frozen Cathedral de John Mackey, donc cathédrale glacée. On n'en a pas parlé, mais votre habitude, c'est d'inviter un chef différent à chacun de vos concerts. Oui. Cette année, vous avez invité un chef français qui s'appelle Rémi Durupt.
Rémi Durupt, ouais. C'est un chef donc, qui a étudié à Genève et qui est maintenant sur la région parisienne, qui est un ancien percussionniste et qui donc nous avait paru vraiment adapté à diriger une partition comme le Sacre du Printemps, qui est vraiment très très rythmique. Il fait beaucoup beaucoup de musique contemporaine, très contemporaine des créations, il est très ouvert à ça. Il vient de gagner un prix en septembre de direction à Budapest, un gros gros premier prix, donc on le félicite pour ça. Et puis voilà, il revient, il était déjà venu l'année dernière, il a fait trois jours de répétition.
Et puis, il a dû repartir malheureusement,
donc là cette année on est sûr que ça va aller au bout.
Il est habitué aux grands orchestres d'harmonie, il a déjà eu l'occasion d'en diriger.
Non, et on essaie justement de pas choisir des gens qui sont vraiment habitués à diriger ça, qui viennent avec lui. Là je crois que la semaine dernière il était avec les Pays de la Loire. C'est vraiment quelque chose qui, on essaie de chercher des chefs qui viennent diriger un orchestre d'harmonie comme si dirigeait un symphonique, et vraiment cette vision de l'orchestre d'harmonie ou un petit peu fanfare, etc. Nous on essaie de sublimer ça et d'avoir des chefs qui voient les clarinettes comme des violons avec leurs spécificités, particularités, mais vraiment qui essaient de pas voir un orchestre d'harmonie devant.
Voilà, ancien percussionniste comme Jean-Guy Olive.
Exactement.
Chef aussi toulousain.
Nombreux chefs.
C'est assez...
Michel Plasson.
Oui,
était
c'est assez courant. Et Jean-Guy Olive, qui était venu dans cette émission, nous avait expliqué, bah oui, parce que nous, on a une vision vraiment de l'orchestre, de par notre placement, on est derrière. Et c'est pas si étonnant que ça que ce soit des percussionnistes qui deviennent souvent des chefs d'orchestre. Pour illustrer le programme de vos concerts des 27 et 28 octobre, Guillaume Leblanc, j'ai eu envie de faire découvrir à nos auditeurs la musique d'Ida Godkowski, cette compositrice française contemporaine, dont vous allez jouer Poème du Feu, une pièce pour grand orchestre d'harmonie qu'elle a composée en 1978. Voici un extrait du deuxième mouvement. Extrait du deuxième mouvement de Poème du Feu, très jolie pièce pour grand orchestre d'harmonie composée par Ida Godkowski, que le Toulouse Wind Orchestra avait interprété les 27 et 28 octobre à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et je rappelle qu'au programme de ces concerts Sacre 2021, vous allez aussi pouvoir entendre Frozen Cathedral de John Mackie et une version du Sacre du Printemps de Stravinsky, sur laquelle vont se produire les danseurs de la compagnie Humanum. Les deux concerts commencent à 20h30. Avant de terminer cette émission, nous tenions à vous annoncer également le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole à la Lograin, samedi 23 octobre à 20h. Le programme de cette soirée est très original, très varié. L'on va y retrouver le chef allemand Cornelius Meister à la tête de l'ensemble symphonique toulousain et le britannique Benjamin Grosvenor en soliste invité, un pianiste qui fait de plus en plus parler de lui sur la scène européenne, Serge.
Ah oui, oui. La première fois qu'il est venu à Toulouse, c'était dans le cadre de Piano Jacobin, évidemment. C'est là qu'on l'a découvert. Un pianiste avec beaucoup de personnalité, d'autorité, de musicalité, évidemment, et une technique irréprochable. Et là, il vient jouer le rôle de soliste dans le concerto numéro 1 de Beethoven, qui n'est pas le plus joué.
C'est pour ça que ce sera d'autant plus intéressant.
Ah oui, exactement. Et puis, donc, il est bardé de récompenses et de diplômes. C'est vraiment un jeu. jeune.
Ah, il est tout jeune, il a 29 ans. Hein,
oui, ouais. Oui, tout à fait, oui, jeune. Et vraiment avec un tempérament et une personnalité, c'est ça qui est intéressant. Cornelius Maestre, on l'a vu déjà plusieurs fois à la tête de l'Orchestre National du Capitole, donc on est très heureux de l'accueillir de nouveau. Et il va diriger, donc, avant et après le concerto pour piano, d'abord la suite d'orchestre de la Petite Renarde Rusée de Leos Janáček, grand compositeur tchèque et une œuvre rarissime ici à Toulouse. Rappelons que pendant la saison du Théâtre du Capitole, nous aurons le plaisir de revoir Yenoufa, du même Janáček. Donc c'est un peu dans l'air du temps.
Ce sera un avant-goût.
Un avant-goût. Et puis la deuxième partie de ce concert sera occupée par la symphonie numéro 8, dite tchécoslovaque, de Dvorak. Une très belle œuvre. Que la symphonie du Nouveau Monde a un peu tendance à masquer. C'est vraiment dommage, parce que c'est une belle symphonie dont les motifs qui ont inspiré Dvorak sont des motifs de son pays, hein, des motifs populaires. Donc, une œuvre intéressante.
Voilà donc pour ce concert du samedi 23 octobre à 20h à la Lograin de l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Cornelius Maestre. Comme je l'ai dit, le jeune pianiste britannique Benjamin Grosvenor est de plus en plus demandé sur la scène musicale européenne. Tous ses enregistrements sont unanimement salués par la critique. On l'écoute tout de suite dans une interprétation du troisième mouvement Rondo Allegro Scherzando du concerto pour piano numéro 1 de Ludwig van Beethoven. Le magnifique troisième mouvement Rondo Allegro Scherzando du concerto pour piano numéro 1 de Beethoven, interprété par Benjamin Grosvenor. Le jeune pianiste britannique est donc en concert avec l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Cornelius Maestre ce samedi 23 octobre à 20h à la Lograin, lors d'un concert où sont également programmés la symphonie numéro 8 de Dvorak et la Petite Renarde Rusée, la suite pour orchestre de Leos Janáček. Il est temps maintenant de conclure cette émission. Merci beaucoup à vous deux, Serge Chosy et Guillaume Leblanc, d'en avoir été les invités. Je rappelle encore une fois les deux concerts que donne le Toulouse Wind Orchestra mercredi 27 et jeudi 28 octobre à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Le programme est intitulé Sacre 2021 et vous pouvez réserver et acheter vos places en ligne sur le site de l'orchestre www.toulousewindorchestra.com. Je rappelle aussi qu'il reste des représentations du ballet Toulouse-Lautrec de Kader Bellarbi les 20, 22 et 23 octobre à 20h au Théâtre du Capitole. Réservation et achat des billets en ligne sur le site www.theatreducapitole.fr. Pour le prochain concert de la saison des grands interprètes, lundi 25 octobre à 20h à la Lograin, avec Sabine Devielle et l'ensemble Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon, c'est sur le site www.grandsinterprètes.com qu'il faut vous connecter pour réserver et acheter vos places. Et enfin, pour le concert de l'Orchestre National du Capitole avec le pianiste Benjamin Grosvenor, samedi 23 octobre à 20h à la Lograin, renseignements, réservations et achats des places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Merci également à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude sur le site de Radio Présence. Notez bien que Mélomanie est désormais diffusée les mardis à 19h ainsi que les mercredis à midi. Merci de votre fidélité et excellente semaine musicale à tous.